Eh oui, politique et éthique sont deux mots qui peuvent aller de pair. L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin a remis ce vendredi 9 novembre à François Hollande 35 propositions pour rénover la vie politique française et rapprocher les citoyens de leurs élus.
Le président de la République a annoncé qu'il consulterait sur la base des 35 propositions les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que les chefs des partis politiques représentés au Parlement dans les prochaines semaines. Un projet de loi constitutionnel devrait être présenté au début de l'année prochaine.
Oui, et la mesure phare de la commission Jospin est la remise en cause du cumul des mandats. Cependant, les réflexions ne s'attachent pas seulement à rénover le statut du politique et sa gestion du pouvoir. Elles révèlent un nouvel intérêt pour le citoyen et sa représentativité.
Et Marie-Ève, chez les politiques, ça ne fait pas que des heureux. Tour de piste des propositions et des réactions.
Paul l'éthique, un sujet préparé par Mathilde Ferrez.
Avec le rapport Jospin, c'en est fini de certains privilèges donc.
Dans sa volonté de rénover la vie politique française, le rapport Jospin propose en effet des réformes qui, si elles sont acceptées, pourraient enfin changer l'image de l'élu.
En tête, l'interdiction du cumul d'un mandat de député ou de sénateur avec un mandat d'exécutif local. Ce régime s'appliquera pour les députés comme pour les sénateurs, qui pourraient toutefois détenir un mandat de conseiller municipal, communautaire, général ou régional, sans fonction exécutive.
Les ministres n'échappent pas à ce renouveau. La commission refuse tout cumul entre des fonctions ministérielles et un mandat local. En outre, avec la suppression de la Cour de justice de la République, instance habilitée à juger les crimes et délits perpétrés par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions, ils seront désormais jugés comme tout autre citoyen.
Le président de la République voit également son statut évoluer.
Comme tout justiciable, le président sera dorénavant responsable pénalement des actes accomplis avant ou en dehors de ses fonctions. De même, ce dernier ne pourra plus siéger de droit au Conseil constitutionnel.
Mais Marie-Ève, les innovations ne concernent pas seulement l'homme politique en tant qu'élu, l'homme politique en campagne également. Il devra ainsi s'aventurer sur d'autres terrains pour conquérir les fameuses signatures.
La sempiternelle course aux 500 parrainages d'élus permettant de concourir à l'élection présidentielle laissera sa place à un autre marathon, la collecte de 150 000 signatures de citoyens.
Cela évitera au Front National de brandir la théorie d'un complot fomenté par les autres partis en lice pour empêcher sa candidature. Mais c'est surtout un autre rapport entre politique et citoyens que tend à créer cette proposition de réforme.
En effet, l'obtention de signatures citoyennes ne fait plus des candidats à la présidentielle les simples jouets de négociations un peu troubles entre des professionnels de la politique. Les candidats proposés représenteront, avant le suffrage populaire, une émanation directe de l'espace citoyen collectif.
Les réformes qui touchent le statut de l'homme politique, élu ou en devenir, ont donc, on le voit, des répercussions indirectes sur la place du citoyen. Voyons maintenant les propositions qui touchent plus directement la vie du citoyen.
La mesure phare qui touche le citoyen est la révision du scrutin législatif.
Le rapport propose en effet, Marie-Ève, une élection à la proportionnelle de 58 députés sur les 577 qu'en compte actuellement l'Assemblée nationale.
Et il est intéressant, Thomas, de noter que ce projet ne tombe pas dans l'écueil d'une surreprésentation de la diversité qui mène fatalement à l'instabilité gouvernementale. Le nombre limité de députés révèle dans un premier temps la volonté de dégager une majorité claire.
En outre, si ce système voit le jour, les électeurs effectueront un double vote. Une première fois pour leurs députés, selon le scrutin uninominal à deux tours que nous connaissons déjà. Une seconde fois pour une liste nationale liée à une formation politique. C'est à partir de cette liste nationale que se déduit le résultat de la proportionnelle. Selon les votes obtenus sur cette liste, les sièges se distribuent entre tous les partis.
Cette vision du mode de scrutin proportionnel paraît relativement équilibrée. Par le double vote, il permet d'une part l'émergence d'une majorité claire et offre l'occasion d'autre part aux formations politiques de moindre envergure d'exister sur les bancs de l'Assemblée.
Cette meilleure visibilité des petits partis est soutenue par un autre projet qui laisse à espérer que l'effort vers plus de représentativité n'est pas que chimère.
Le texte final défend en effet l'idée d'un assouplissement des règles de remboursement des frais électoraux et des campagnes électorales des partis secondaires, propre à leur assurer une existence dans les compétitions électorales par un accès facilité aux médias.
L'idée d'équilibre au sein du scrutin se retrouve enfin dans la révision du mode d'élection des sénateurs, en suggérant que soit renforcé le poids des collectivités en fonction de leur démographie. Maintenant ainsi, certes une surreprésentation des communes, mais la ramenant à des proportions moins caricaturales qu'aujourd'hui.
Au-delà de l'opinion citoyenne singulière, c'est donc la France dans sa diversité, tant celle des communes, des départements et des régions, que la Commission a cherché à propulser. Seulement, certains politiques se passeraient bien d'une nouvelle représentativité, préférant l'éternelle continuité.
Les réactions de l'opposition se cristallisent justement, Marie-Ève, sur la révision du mode de scrutin pour les élections sénatoriales. Elles représentent, pour eux, une stratégie électorale de la part de la gauche.
En favorisant la voix des régions par la modification du scrutin, la gauche baliserait son chemin pour les prochaines élections de 2014. Mais ce qu'il déplore surtout, c'est la rupture que ce nouveau scrutin risquerait d'entraîner avec la France rurale, cette France de la périphérie qui serait trop oubliée à Paris.
Et cet argument de la rupture n'a pas que du succès à droite. Au PS aussi, on l'invoque.
Seulement, Thomas, le présupposé n'est pas le même. Si François Rebsamen, maire de Dijon, ou Gérard Collomb, maire de Lyon, usent de cet argument, c'est par rapport au non-cumul des mandats. Selon eux, la double casquette permettrait un juste équilibre entre la sphère nationale et la sphère locale.
Des arguments qui se justifient quand on les considère à partir du rôle du député.
En effet, le parlementaire, afin de jouer pleinement son rôle de représentation nationale, doit connaître ce va-et-vient, parce qu'il représente la France dans sa globalité.
En revanche, Marie-Ève, l'argument apparaît moins pertinent si l'on se place du côté de l'élu local.
En effet, le mandat local est souvent utilisé à des fins utilitaires, comme tremplin pour des ambitions nationales futures. Et cette ambition sous-jacente contribue très souvent à discréditer le politique. On le croit ici, à côté, mais il regarde ailleurs.
Alors oui, avec le non-cumul des mandats, les politiques ne pourront plus jouer de ce va-et-vient entre le centre et la périphérie. Mais si ce mouvement s'arrête pour que les élus se concentrent davantage sur leur rôle, ce sera le mouvement de confiance entre le citoyen et le politique qui pourra être relancé. Et c'est cela qui doit passer avant toute chose, des hommes politiques plus crédibles, parce que compétents, pour une République plus crédible.
Paul Lettique, un sujet préparé par Mathilde Ferrez.